Je vous propose de lire, ou plutôt de relire, dans l'Épître aux Éphésiens, le début du chapitre 2. On a déjà abordé ce texte lors du culte à Pharens, il y a quelques semaines. Donc, Éphésiens chapitre 2, on va lire les 10 premiers versets. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alors Paul écrit à des chrétiens d'origine païenne, de la province romaine d'Asie, c'est la Turquie actuelle, et il leur dit, on l'a lu au verset 1, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Mais au verset 3, il s'empresse d'ajouter « Nous aussi », c'est-à-dire « Nous les Juifs devenus chrétiens ». Vous, nous, étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Les mots traduits dans le texte original, sous la plume de Paul, hein, par faute, dans le texte grec, ça c'est paraptoma, et par péché, amartia, ne sont pas une simple redondance de style, ce sont bien deux mots différents. Paraptoma, la faute, c'est la transgression volontaire d'un interdit, la violation de standards moraux, la faute active, le péché par commission, comme disent les théologiens. On sait très bien qu'une chose est interdite par la loi morale de Dieu, ou la loi des hommes même, mais on la fait quand même. Amartia, c'est plutôt le péché par omission. Il signifie, étymologiquement, manquer le but. C'est ne pas faire ce que l'on sait très bien que l'on devrait faire. Prenons des exemples. Je commets un adultère. C'est une faute active, même si elle est partagée, puisque par définition, il faut être deux pour la commettre. C'est la faute paraptoma. Je m'abstiens de porter secours aux migrants qui, dans ma ville, dort en bas de mon immeuble, sur le trottoir, en plein hiver. C'est un péché par omission, amartia. J'ai manqué le but assigné par Dieu de la compassion. Notre ami Destin, que certains connaissent, donc un migrant africain d'origine camerounaise, il y a de ça 3 ans, un jour, installer des cartons par terre sur un trottoir pour dormir, tout simplement. Hein. Et il faisait très froid. Il y a un monsieur qui est passé par là, qui a arrêté sa voiture, qui lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là, petit ?» Et il m'a dit « Je m'installe pour la nuit. » Et ce monsieur lui a payé une chambre d'hôtel. Il l'a jamais revu, hein ? Voilà. Il n'a pas manqué à Martyr. Ces deux catégories de faute ou de péché sont la conséquence d'un état tragique, la mort spirituelle. Aux yeux de Dieu, nous sommes morts dans ces fautes ou par ces fautes. Cet état tragique de mort spirituelle est celui de toute l'humanité qui a tourné le dos à Dieu et au seul moyen de salut, la mort de son Saint-Fils Jésus-Christ, justement, pour nos fautes et nos péchés. Au verset 2, Paul précise tout de suite que cet état était celui de ses lecteurs païens autrefois, c'est-à-dire avant de connaître le Christ, et que les personnes auxquelles il écrit marchaient dans ses fautes, c'est-à-dire que c'était leur comportement ordinaire. Il marchait dans ses fautes selon le siècle de ce monde. On pourrait traduire selon l'ambiance de ce monde. Et, là une expression curieuse, selon le chef ou le prince de l'autorité de l'air. Satan n'a probablement pas de pouvoir particulier sur l'air physique que nous respirons. Mais c'est bien lui qui a autorité sur l'atmosphère morale, atmosphère polluée, dans laquelle nous nous mouvons et que nous respirons volontairement ou non. Une anecdote un peu drôle. Lors d'un voyage aux USA, j'ai demandé au beau-père de mon fils, Étienne, pourquoi les tracteurs des cultivateurs Amish ont des roues métalliques crantées mais sans pneus. Ce qui était le cas, hein, tous les tracteurs avaient des roues métalliques à cran, mais il n'y avait pas de pneus. Il m'a répondu que c'était justement à cause de ce verset. Parce que Satan est le prince de l'autorité de l'air. Alors bon, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Je ne suis pas certain que ce soit la véritable raison. Dans la suite de ce verset 2, Paul précise que cette atmosphère mondaine provient de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. C'est bien le mot « esprit » qu'il utilise. Sorte de contrefaçon du Saint-Esprit qui, lui, habite en ceux qui sont unis à Christ. Et cette expression, les fils de la désobéissance, nous renvoie à la désobéissance première d'Adam et Ève, par laquelle le péché est entré dans le monde et est passé à tous les hommes, comme Paul l'écrit dans l'Épître aux Romains, Romains 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort », et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Littéralement, nous conduisions notre vie dans les désirs ou convoitises de notre chair, faisant sa volonté ainsi que celle de nos pensées. On voit que pour Paul, les aspirations de l'esprit humain non renouvelé par la nouvelle naissance sont tout aussi mauvaises que le dévoiement de ceux du corps, des désirs du corps. Le corps a ses désirs naturels, s'alimenter, se vêtir, désirs sexuels, se divertir, etc. Tout cela n'est pas mauvais en soi. Mais le dévoiement induit par le péché pervertit tout. L'appétit peut devenir gloutonnerie, avec pour conséquence les maladies favorisées par l'obésité. Le vêtement peut devenir une obsession, plus ou moins raisonnable et dispendieuse, de suivi de la mode, et surtout il peut facilement flirter avec l'indécence. Le désir sexuel, qui est un don de Dieu, peut, perverti par le péché, donner lieu à toutes les déviations possibles, comme on le voit sous nos yeux tous les jours. Mais les mauvais désirs intellectuels ne sont pas meilleurs. Les philosophies athées qui tentent de trouver une sagesse en dehors de Dieu, c'est aussi des mauvais désirs, mais de la pensée. L'intellectualisme théologique, déconnecté de la fraîcheur de l'Évangile, malheureusement ça existe aussi. les hypothèses hasardeuses extrapolées à partir des découvertes scientifiques et qui contredisent la parole de Dieu. Par exemple, la théorie darwinienne de l'évolution. Je dis bien darwinienne, c'est-à-dire le fameux couple mutation-sélection naturelle, capable, selon ses tenants, d'expliquer l'origine de toutes les catégories d'êtres vivants, y compris nous-mêmes. Ce qui est incompatible avec le récit biblique. Nous marchions tous dans ces choses, accomplissant les désirs de la chair et des pensées, et nous étions des enfants de colère, comme aussi les autres. Nous étions même par nature des enfants de colère, comme aussi les autres, ça c'est la traduction littérale. Enfant de colère, ça veut dire enfant destiné à la colère de Dieu. Notre destin naturel d'être déchu, spirituellement mort, et de subir la colère de Dieu, une colère parfaitement juste. La colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère humaine. Selon ce qu'écrit le théologien anglais John Stott, elle est l'hostilité personnelle, juste et constante de Dieu à l'égard du mal, son refus déterminé de toute compromission avec lui et sa résolution de le condamner. Tout cela fait que nous étions morts spirituellement aux yeux de Dieu. Alors pourquoi morts ? Parce que tous nous avons démontré, tant par nos pensées que par nos actes, que nous refusions de nous soumettre à sa bienveillante direction de nos vies. Jésus a affirmé « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la vie. En dehors de lui, nous sommes morts. Au verset 4, « Mais Dieu, je traduis littéralement, étant riche en compassion et à cause de tout l'amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos transgressions, faute, péché, on l'a vu, hein, nous a rendus vivants ensemble par Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. » Paul utilise un verbe que semble-t-il il a forgé lui-même et qui peut être traduit par « rendu vivant ensemble ». Synergeiro, dans le texte grec. Hein, ensemble, relevé. Être rendu vivant, c'est être ressuscité. Et ensemble, ça signifie que notre résurrection, pour le moment uniquement spirituelle, est la conséquence de celle physique survenue il y a 2000 ans de Christ. Notre vie est liée indissolublement à la sienne. Il n'y a pas de plus grande évidence que ce fait-là de la robustesse de notre salut. En Jean 5, 24, Jésus a dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Et il n'est pas condamné. Il est passé de la mort à la vie. » C'est bien une résurrection. Apocalypse 20, verset 6, le même Jean écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de prise sur eux. » Alors s'il y a une première résurrection, c'est qu'il y en a une deuxième. Cette deuxième résurrection, c'est celle de nos corps. Et en effet, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur nous, car nous avons la vie éternelle. Et de même qu'il y a une seconde mort, c'est qu'il y en a une première. Et cette première mort, c'est justement cette mort spirituelle dont Paul parle dans ce chapitre. Nous étions tous morts par nos fautes et par nos péchés. Mais grâce en soit rendue à Dieu, nous étions morts en effet, mais nous sommes déjà ressuscités spirituellement en attendant la résurrection de nos corps. La seconde mort, conséquence du refus du salut en Christ, n'aura aucune prise sur nous, tant spirituellement que physiquement. La seconde mort, c'est la damnation éternelle, c'est-à-dire une éternité séparée du Créateur. Mais, pour ceux qui sont déjà ressuscités spirituellement par leur union avec Jésus-Christ, leurs corps ressusciteront bel et bien, comme Paul l'annonce en 1 Corinthiens 15, par exemple, des corps glorieux, parfaitement adaptés à la vie éternelle dans la présence de Dieu. Au verset 6, « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Vous voyez que Paul va... Il construit son discours, il nous en apprend de plus en plus. Hein. C'est très dense, mais... Au verset 5, Christ nous avait rendus à la vie avec lui. Au verset 6, littéralement, il nous relève avec lui. Le verbe utilisé par Paul, je l'ai dit, la Egeiro, parle de son relèvement et de son ascension auprès du Père. Nous y sommes associés. Et c'est pour cela que Paul ajoute qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ, tout comme Christ est assis à la droite du Père une fois remonté au ciel. Le même John Stott écrit « C'est dans les lieux célestes, le monde invisible des réalités spirituelles où opère les principautés et les puissances sur lesquelles Christ règne souverainement, que Dieu a béni son peuple en Christ et qu'il l'a fait asseoir avec Christ. » Et il ajoute « Si nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, alors il n'y a aucun doute, nous sommes assis sur des trônes. » C'est ce que nous avons lu dimanche dernier sous la plume de Jean dans son Apocalypse, chapitre 1, verset 6. « Il nous aime. » Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. On l'a encore chanté maintenant. Versets 7 à 9. Il l'a fait, donc Dieu, hein, afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ces trois versets sont fondamentaux pour la doctrine biblique du salut. Le même John Stott la résume ainsi. Le salut n'est pas le résultat de vos efforts. Cela ne vient pas de vous. Ni la récompense de vos œuvres religieuses ou philanthropiques. Ce n'est point par les œuvres. Puisqu'il n'y a aucune place pour le mérite de l'homme, il n'y a pas non plus de place pour l'orgueil humain. Personne n'a de raison de se vanter. La grâce de Dieu est extraordinairement riche, c'est-à-dire surabondamment déployée. En quelque sorte, Dieu affiche ce déploiement surabondant de sa grâce à la face des autorités spirituelles, tant bonnes que mauvaises. Les bonnes, ce sont les anges qui sont restés fidèles à Dieu et qui se prosternent devant cet extraordinaire déploiement de sa grâce. Les mauvaises, ce sont celles qui ont suivi leur prince, Satan, et qui sont bien obligées de reconnaître que c'est cette étonnante grâce de Dieu qui est la cause de leur défaite. C'est en effet la grâce de Dieu qui nous sauve par le moyen de la foi. La foi, c'est la réponse confiante et joyeuse à cette grâce, mais c'est elle-même un don de Dieu. Car comme l'a dit Jésus, en Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Littéralement, nous sommes son ouvrage. On pourrait traduire aussi, nous sommes son chef-d'œuvre. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elle. Là, je ne l'ai pas écrit, mais j'y pense à l'instant. Le premier homme, Adam, était le chef-d'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de création. Eh bien, Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. C'est une nouvelle création. Notre salut n'est pas seulement l'assurance de la vie éternelle, c'est véritablement une nouvelle création. Paul l'écrit, encore Paul, en 2 Corinthiens 5, 17, ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, Dieu nous a littéralement recréés en Christ, mais dans un but, dans le but d'accomplir une mission dans ce monde, démontrer par notre comportement à quel Dieu merveilleux nous appartenons, et cela particulièrement par le bien que nous faisons en cette vie, ces œuvres bonnes qui glorifient Dieu. Et ces œuvres bonnes comportent bien sûr aussi la proclamation de l'Évangile. Ces œuvres sont la démonstration de la vie divine en nous, alors qu'avant d'accepter Christ, eh bien nous étions morts. Ce salut est entièrement l'œuvre de Dieu parce qu'il a lié notre vie indissolublement à celle de son Fils Jésus-Christ. La grâce est bien sûr celle de Dieu, et la foi elle-même est un don de Dieu. Il n'y a rien de l'homme, et c'est tant mieux. C'est la garantie de la robustesse de notre salut. Mais ce salut se démontre par les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Comme le dit l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire sans réalité. Et ça, c'est notre privilège, notre joyeux privilège d'enfant de Dieu, lui démontrer notre reconnaissance et notre amour en marchant dans les œuvres qu'il a préparées pour nous et qui le glorifient, et en proclamant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 2, verset 12, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. » On voit que ce n'est pas un salut théorique et stérile, mais un salut qui porte du fruit agréable à Dieu. Puissions-nous vivre pleinement cet extraordinaire salut.